On va lire Apocalypse 2, verset 7. On va lire Apocalypse 2, verset 11, 2, verset 17, 2, verset 26, 3, verset 5, 3, verset 12 et 3, verset 21. Cette fois, Jésus a prononcé des paroles que nous allons examiner.
Apocalypse chapitre 2, verset 7.
Oui.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Mm-hmm.
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Ça, c'est le 1. À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 2, 11.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Oui.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 2, 17.
Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Mmh.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc.
Mmh.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit.
Mmh. 2, 26.
Chapitre 2, verset 26. Toujours Apocalypse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
mm-hmm.
je donnerai autorité sur les nations.
Mm-hmm. 3, verset 5. Apocalypse 3, 5.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs.
Oui.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je vous ai expliqué dimanche dernier que ça veut dire que tous les noms, tous ceux qui naissent, ont leur nom déjà inscrit dans le livre de vie, mais après on efface pour certains. En fait, Dieu écrit déjà le nom de tous les hommes et efface au fur et à mesure. Donc il dit, celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé. On a l'habitude de dire, Seigneur, écris mon nom. Ton nom est déjà écrit. Le problème, c'est que si tu ne fais pas bien les choses, on va effacer. On continue.
Chapitre 2, verset 12.
Oui.
Chapitre 3, pardon, verset 12.
Mm-hmm.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
Oui.
Et il n'en sortira plus.
Mm.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu.
Amen.
De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Mm-hmm.
Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
Mm.
Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Extraordinaire. Donc cette fois dans Apocalypse, le mot à celui qui vaincra. Est-ce qu'on peut répéter à celui qui vaincra? Voyez, cela nous interpelle et nous fait comprendre que Dieu s'attend à ce qu'on soit des vainqueurs. C'est important de le comprendre. Église, gagner une bataille n'est pas optionnel. Dieu s'attend à ce que tu sois un vainqueur. Alléluia. Et vous savez, la vie, elle est faite de batailles. Elle est faite de batailles. La vie est une succession de batailles. Depuis la chute de Satan, depuis que Satan a été précipité sur terre, chaque territoire qu'un homme gagne, il gagne ce territoire-là en bataillant. Satan ne va rien te livrer cadeau. Il a dit à Jésus, tout ce que tu vois m'a été donné. Donc un homme qui va gagner dans la vie et avoir des succès doit comprendre et admettre que chaque territoire, il y a une bataille à faire pour gagner les territoires. Alléluia. Et on a remarqué malheureusement que l'église est remplie de gens qui sont dans la défaite, qui font face aux problèmes et qui n'arrivent jamais à trouver les solutions parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un impératif pour eux de gagner leur bataille dans la vie. Parce qu'une bataille qui n'est pas gagnée, c'est un retard dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi gagner des batailles est important pour aller vers la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Donc Dieu s'attend à ce qu'on gagne nos batailles. Dis Amen. Ce point-là n'est pas négociable. Et vous devez l'admettre. Mais j'ai dit que malheureusement, on ne fait pas face aux batailles de la même façon. Quand les hommes font face à un problème, la plupart du temps, ils tiennent compte de deux éléments majeurs. Ce qu'ils voient et ce qu'ils recherchent. Ça, c'est juste quelques rappels que je suis en train de faire avant de continuer. Ce qu'ils voient et ce qu'ils recherchent. Et j'ai dit, ce qu'ils voient est d'abord très important. Ce que tu vois, c'est la perception que tu as de la situation qui est devant toi. Ce que tu recherches, alléluia, c'est tes valeurs, tes objectifs que tu veux atteindre. Et j'ai dit que un homme peut faire face à une difficulté, à un problème. Il peut avoir la bonne perception du problème. Il peut bien comprendre le problème. Mais si ce qu'il cherche n'est pas en accord avec la vision qu'il a du problème, alors il sera bien sûr conscient que le problème est là, mais n'aura jamais la force nécessaire pour résoudre le problème. C'est très important. Et la plupart des gens sont conscients des problèmes dans lesquels ils se trouvent. Mais malheureusement, ils ne cherchent pas à résoudre le problème. L'objectif ou le but qu'ils poursuivent, ce n'est pas régler le problème. Donc, ils sont conscients du problème, mais n'ont pas la capacité de résoudre le problème parce que ce n'est pas le but majeur de leur vie. En deuxième point, tu peux ne pas avoir une perception claire du problème, mais tu peux avoir une conviction claire, je veux sortir du problème. Donc, vouloir sortir du problème est une bonne chose. Mais si la perception que tu as du problème n'est pas la bonne perception, alors, bien qu'ayant le désir de vouloir sortir, tu ne seras pas efficace dans les solutions trouvées pour résoudre ton problème. Donc, pour qu'un homme s'en sorte face à un problème, il est important qu'il ait la bonne perception et qu'il ait la détermination qui s'attache à la perception. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et on a dit beaucoup de choses. On a défini ce que c'est qu'un problème. On a dit un problème peut être un obstacle à la vie d'un homme. Un problème peut être une anormalité qui intervient dans tes circonstances. Un problème peut être une situation difficile que tu traverses. Un problème est également peut être une différence entre tes attentes et ce que tu vis au présent. Beaucoup de gens attendent à ce que s'attendent à Dieu ou attendent certaines choses de la part de Dieu, mais vivent autre chose. Ils sont dans une situation inconfortable, ils vivent des problèmes. Alléluia. Maintenant, ce matin, je vais vous expliquer comment sortir ou résoudre un problème. C'est important. Parce que tu n'as pas de choix que de gagner tes batailles. Et si tu dois gagner tes batailles, il faut que tu saches comment faire face à un problème et le vaincre. Parce que beaucoup de gens sont vaincus par leurs difficultés. Et à un moment donné, entrent dans une zone de confort et puis vivent avec leur situation, vivent avec leurs problèmes et ça devient normal. Le monsieur, il vit avec la chose. Il crée une petite chambre quelque part, il donne le problème et puis il vit avec la chose. On dit, mon frère, ça va, il dit, tout va bien. Pourquoi? Parce que pour lui, ça, ce n'est plus un problème. Il vit avec. Il appelle même la maladie sa maladie. Il entretient la chose. Il ne prie même plus pour la chose parce que c'est son quotidien. Il a tout essayé, ça ne marche pas. Donc, on vit avec. Quand Jésus reviendra, il va décider. Dites amen. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas changé. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, Dieu fait encore des miracles. Amen. Est-ce que tu peux dire amen?
Amen?
Nous croyons au Dieu des miracles, le Dieu qui change les vies, qui change les circonstances. Église de Jésus-Christ, si cette église de la fin des temps doit tenir, il faut que cette église reste équilibrée. C'est-à-dire qu'elle enseigne la parole, qui fait figure d'autorité avec droiture et exactitude, mais qu'elle garde les deux pieds dans le miraculeux. Parce qu'on ne peut pas soustraire le miraculeux du christianisme. C'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à des points où ils ne croient même plus que Dieu peut faire. Ils se disent, bon, on ne sait pas, est-ce que l'affaire de Dieu, là, ça marche pas. Donc, même quand tu dis, bon, on va prier, bon, souvent ils viennent, mais souvent ils se disent, bon, dans tous les cas, on a essayé. Frère, tu sais, si ça n'a pas marché pour toi, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui n'est pas fort. J'ai dit quelque chose d'important dimanche dernier. J'ai dit, quel est ton problème? Et on est arrivé à une conclusion importante. C'est que ton problème n'est pas en réalité ton problème. Parce que dans la société en général, lorsque quelqu'un a des difficultés, dans l'analyse que nous faisons, on fait quoi? On analyse la situation et on tire la conclusion que cet homme est victime de la vie ou de la société. Mais très souvent dans l'analyse que nous faisons, nous, on exclut la personne. Alors qu'on ne peut pas en réalité résoudre un problème sans tenir compte de la personne. Pourquoi? Numéro 1. Je ne peux pas t'en vouloir d'avoir eu des problèmes. Et tu ne peux pas empêcher, quels que soient tes micmacs, tes offrandes dangereuses, tu ne pourras jamais avorter tous les problèmes sur ton chemin. Mais de même que un problème qui survient dans ta vie peut ne pas forcément dépendre de toi, il est important que tu saches que la réponse au moins dépend de toi. Donc vous voyez que dans l'analyse d'une situation donnée, le problème ne dépend pas de toi, mais au moins la réponse dépend de toi. Voilà pourquoi, alors qu'on qualifie une situation de problème, lorsque la personne qui est face à la situation est dans l'incapacité de répondre juste et de répondre droit. Donc, quelque chose devient problème, non pas à cause de la chose, mais à cause de notre réponse. Parce que la même situation, certains sont passés, ça n'a pas été un problème. Mais toi seul, tu es passé, tu es resté. Donc une situation qui a vu d'autres grandir, toi t'as enterré. Qu'est-ce qui est en cause? C'est la situation ou c'est toi? C'est important de savoir situer les responsabilités. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir comment résoudre un problème. C'est bon pour tout le monde? Ton amen ne me convainc pas. La première clé que je veux que tu saisisses ce matin, lorsque tu es face à une situation de difficulté, c'est qu'il faut que tu adoptes un mode de pensée conforme à la parole de Dieu. Dis à ton frère, adopte un mode de pensée conforme à la parole. Tu sais, c'est le préalable. La Bible dit, un homme est tel qu'il pense. La pensée est à l'origine de ce que nous sommes. Donc, quand tu es face à une difficulté dans la vie, ton mode de pensée est déterminant pour la suite de tes actions. C'est pourquoi adopter un mode de pensée conforme à la parole de Dieu n'est pas négociable. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans nos églises. Beaucoup de gens fréquentent nos églises, mais peu sont ceux qui croient réellement en Dieu. Vous savez, attraper une Bible, venir s'asseoir, ne veut pas dire on croit en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Écoute-les parler, écoute-les raisonner quand ils sont en palabre avec leurs frères. Je ne lui parle pas. Pourquoi je vais lui parler? C'est ce qu'il m'a fait. Dans l'église, un tel homme est-il un chrétien ou un païen? C'est la question. Pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Tu suis qui? Non, pasteur, je ne le ferai pas. Et tu vois des chrétiens, diacres, anciens, pasteurs, évangélistes, dans l'église, qui se comportent, même les païens se comportent bien. Nerveux, prêts à faire des palabres, à tout mélanger, mais chrétiens, c'est un problème de perception. C'est un problème de perception. Et si on ne se dit pas la vérité, Église, on ne s'en sortira pas. Donc, ton mode de pensée est un préalable. Comment tu vois la vie? Frère, je suis venu t'annoncer qu'aucun problème n'est insoluble. Toute situation difficile a une réponse. Ton amen prouve que tu ne crois même pas. Parce que ta situation t'a tellement malmené que tu es arrivé à un point où tu penses que ta situation là, il y a des gens qui sont passés par la même situation, se sont en sortis. Ils ont été élevés. C'est toi seul qui souffres. Tout le monde ne souffre pas avec toi. Hein? Je te dis la vérité, tout le monde ne souffre pas avec toi. Il y a des gens qui ne souffrent pas. Il faut l'accepter. Donc, change ton mode de pensée. Il y a des gens, face à une difficulté, la première chose qu'ils font, c'est la négativité. La première chose qu'ils observent, c'est ce qui ne va pas ou c'est ce qui n'est pas bon. Regardez par exemple, lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, quand l'armée d'Israël pleurait, se cachait et murmurait face aux Philistins qui venaient matin et soir, le problème n'était pas parce qu'ils n'étaient pas forts. Leur mode de pensée les a paralysés. Leur mode de pensée les a anéantis. David est venu sur un champ de bataille où personne ne parlait positif, où personne n'envisageait l'éventualité de la mort de Goliath. Quand il est arrivé, il a trouvé un système de pensée. Les gens ont failli le mettre dans le système de pensée pour dire, ici on ne parle pas beaucoup. Ça là, il est chef militaire depuis qu'il est bébé. Dans le ventre de sa mère, il avait Kalash. David, tu viens d'arriver. Nous, on est là il y a longtemps. Ça, c'est les vieux chrétiens. On a fait. Toutes les veilles, on a fait. Mon ami, va doucement avec Dieu là. C'est un peu on tombe, un peu on se lève. Un peu on tombe. Moi, je te parle. Je suis ton vieux père. Ça, c'est lui. David dit non. Mais quand vous regardez le monsieur là, regardez comment il est large, regardez comment il est grand. Vous avez peur de lui parce qu'il est grand. Non, regardez-le, il est grand. Ça veut dire quoi? L'éventualité de sa mort là, elle est grande. Donc David a eu un mode de pensée différent. Quel est ton mode de pensée quand tu es face à une situation? Est-ce que c'est l'échec que tu vois d'abord ou le succès? Est-ce que c'est l'historique de ta famille que tu vois d'abord ou ton origine en Dieu? Il y a des frères, tu viens les voir, tu dis, bon, j'ai un contrat de 100 millions. Tu vas faire des... Nous, on vient du village. Où je vais trouver mon grand-père menuisier, ma grand-mère est ménagère. Où je vais trouver... Donne aux gens qui s'en sortent. Tu vois, c'est un système de pensée. Il y a des gens qui n'entreprennent pas certaines choses parce que leur mentalité les a plombés. On leur a toujours dit, tu ne seras jamais rien. Vous savez, c'est comme en Inde, il y a une classe en Inde de personnes. Eux, ils sont formatés. On leur dit que vous êtes nés pour servir, vous êtes des esclaves. Donc, même quand tu es dans les rues, ils viennent te demander l'argent qu'on est sale. Si tu leur donnes, par exemple, 10 roupies, ils disent non, il ne veut pas 10 roupies, il veut, faut couper, donne 1. Parce qu'il n'a pas envie d'être riche, c'est un péché. Mais il est formaté comme ça. Donc, si tu le prends et tu veux l'aider à déménager pour avoir une belle maison, ah non, tu ne peux pas, il ne va pas s'en sortir. Il va dire non, tu veux qu'il pêche, tu veux qu'il ne s'en sorte pas. Et voilà la mentalité que la plupart des chrétiens ont face aux difficultés. Voilà pourquoi ils échouent. Parce qu'on n'échoue pas parce qu'un problème est trop grand. Mais on échoue parce que les ambitions sont trop petites. Donc ton mode de pensée, Il y a un certain nombre de questions qu'il faut que tu te poses quand tu es face à un problème. Numéro 1. Tu es prêt? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir résoudre le problème? Qu'est-ce qui me pousse? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce problème que je veux résoudre mérite le sacrifice et le prix que je vais payer? Ce qui me pousse à résoudre le problème est-il supérieur au problème? C'est trois questions, si tu peux répondre. Ça va affecter ton système de pensée. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir résoudre le problème? Qu'est-ce qui me pousse? Parce que tu sais, si rien ne te pousse à vouloir résoudre le problème, tu ne vas pas résoudre le problème. Si ce qui te pousse à résoudre le problème n'est pas quelque chose qui vaut la peine ou qui mérite que tu souffres, tu ne vas pas résoudre le problème. Si ce qui te pousse à résoudre le problème n'est pas à tes yeux supérieur à la difficulté du problème, tu ne vas pas résoudre le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la vie, quand on n'a pas de cause, quand on ne poursuit rien, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Et beaucoup de gens ne poursuivent rien du tout. Je te donne un exemple. Tu rencontres une soeur au bureau. Elle est ta secrétaire. Elle t'a fait les yeux doux, elle t'a fatigué jusqu'à un moment donné. Elle devient un problème pour toi. Et tu es face à couper et casser cette relation-là. Ou laisser la relation pourrir. Mais c'est un problème difficile parce que tu es devenu tellement, elle est tellement dans ton quotidien et tout, que tu te dis, mais si ce qui te pousse à vouloir arrêter là ne vaut pas la peine, tu ne vas pas arrêter. Par exemple, si tu es un pasteur ou tu es un directeur général, si le ministère n'est pas plus important dans ton cœur, tu ne vas pas régler le problème. Si la vie de tes enfants, l'avenir, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des éléments qui, face au problème dans la balance, le problème ne tient pas. Je suis prêt à payer le prix pour casser. C'est le préalable, hein? C'est-à-dire, c'est les premières réflexions qu'on a quand on est face à une situation. Avant même de commencer à gesticuler. Le problème, c'est que comme la plupart des chrétiens n'ont rien et ne poursuivent rien, c'est-à-dire il est prêt face à quelqu'un qui a un petit cœur et qui veut, à cause de la satisfaction de son petit cœur, veut détruire toute une génération, toute une destinée. Le monsieur ne fait pas trop de calculs. Il ne regarde pas la destinée, c'est-à-dire la multitude attachée à ses reins. Il regarde juste satisfaire le cœur d'une petite fille capricieuse. Mais si il est conscient et qu'il se dit non, attendez. Non, c'est vrai, je peux faire ça, oui, c'est bon, mais quand je regarde, non, je ne peux pas. Donc, vous voyez, le rapport de force. Parce que dans ce monde-là, tout est rapport de force. C'est la première chose, hein. Ton mode de pensée, tu penses comment? Il y a des gens qui ne pensent même pas, ils sont là. Ils disent, la vie vient comme elle vient, on la prend comme elle prend. Ils rencontrent quelqu'un, ils disent, c'est là. Non frère, ici, tu seras tel que tu penses. Et beaucoup de gens sont surpris par leur façon de vivre, ils ne s'en sortent pas. Ils pensent que ce n'est pas fétiche. Hein. Je dis, si tu adoptes un système de pensée qui n'est pas conforme à la parole, tu vas récolter, malgré tes jeûnes et tes prières, malgré tes confessions, tu vas récolter. Un homme est toujours le produit de ses pensées. Je te dis, tu vas mettre sur les gens pour rien. Parce que tu sais, le système de pensée que tu adoptes attire vers toi ce qui va réaliser ou va matérialiser ce que tu crois. C'est qu'un homme croit, tu sais, j'ai compris une chose, un homme a toujours ce qu'il croit, en bien comme en mal. Quand tu vois des mauvaises choses arriver à quelqu'un, tu vas croire qu'il n'a pas cru la chose. Ce n'est pas vrai, il a cru la chose. C'est pourquoi Job pouvait dire, c'est ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Mais en réalité, quand il parle de redouter, là, il veut parler de quoi? Ce sur quoi je fixe mon attention est ce qui se matérialise dans ma vie. Et on m'a donné l'histoire d'un alpiniste qui, ce monsieur-là, il, tu vois, ouais, les gens qui mettent les cordes entre deux montagnes et puis qui marchent comme ça. Et ce monsieur, il était expert. Toute sa vie, il a réussi ça. Et un jour, le dernier jour où il devait mourir, c'est sa femme qui a raconté l'histoire. Elle dit, elle ne sait pas, mais son mari qui ne s'est jamais inquiété, qui n'a jamais, c'est-à-dire d'habitude quand il doit faire ça, ses amis, ses collaborateurs vont, ils font la mise en place et puis il vient, marche comme ça avec un bois et puis il passe. Mais ce jour-là, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il était inquiet pour dire non, il faut que les gens fassent bien pour ne pas que je tombe. Et il est allé ce jour-là lui-même superviser la mise en place pour voir si c'était bien, est-ce qu'il ne va pas tomber. Donc, il avait tellement focalisé son attention sur la peur de tomber qu'il est tombé et il est mort. Tu sais, Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont être surpris au ciel. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui travaille des... Quel est ton système de pensée? Change face à une difficulté. Quelle dit la Bible? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Comment tu te vois? Comment tu appréhendes ton futur? Aucun problème. Vous savez, quand la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui peut venir et qui soit au-delà de tes forces, ce n'est pas faux. Hein? Dieu nous a donné ce qu'il faut pour qu'à chaque instant, face à n'importe quelle situation, on ait les ressources nécessaires pour passer la situation. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que si tu n'as pas encore passé le cap là, ce n'est pas Dieu, c'est toi. J'ai dit, ce n'est pas ce qui vient, c'est ta réponse. Parce que tu ne peux rien faire avec ce qui vient, mais au moins tu peux contrôler la réponse. Deuxième attitude importante et deuxième clé importante ici. C'est bon pour tout le monde? Quand tu as réglé ton problème de système de pensée, ta foi est au point face à la difficulté. Tu sais que tu vas passer. Tu as les objectifs qu'il faut. Tout est en place. La deuxième chose, il faut mettre ton problème par écrit. Je vais te dire pourquoi. Le problème là, écris ça. Beaucoup de gens ne le font pas. Vous savez pourquoi? Écris ton problème va te permettre de faire la différence entre le problème et les symptômes. Je m'explique. Vous savez, quand quelqu'un a le palu, c'est la maladie. Les symptômes du palu, il chauffe, il a la fièvre, il a froid, par exemple. Je donne juste les deux. Tu sais, si tu ne fais pas attention, tu peux confondre les symptômes au problème. Et la plupart des chrétiens font une confusion. Il va prendre tout le temps à régler le problème de la fièvre. La fièvre, la fièvre, la fièvre. Alors que la fièvre n'est que le symptôme. Donc, mettre le problème par écrit vise un objectif, t'amener à faire la différenciation entre le vrai problème et les symptômes. Pour ne pas te tromper de cible. Et vous savez, la plupart des gens n'arrivent pas à régler les problèmes auxquels ils font face. Parce qu'en réalité, souvent ils mélangent le problème et les symptômes. Quand on parle de symptômes, on parle de signes. Signes cliniques, par exemple, il y a des pharmaciens ici, des médecins qui peuvent vous dire, quelqu'un a... Bon, j'ai dit palu. Bon, le palu, c'est ce que tu peux comprendre. Quelqu'un a un palu. Est-ce qu'il ne chauffe pas? Il chauffe. Est-ce qu'il n'a pas de migraine? Il a la migraine, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que la plupart du temps, ces symptômes que je vous cite là, ce n'est pas seulement le palu. Il y a plusieurs maladies qui ont les mêmes symptômes. Mais si le monsieur ne va pas voir un médecin, pour que le médecin l'interroge, pour écrire A, B, C, D, parler avec lui, mais en parlant avec lui là, qu'est-ce que le médecin recherche? Parce que dans les symptômes, il y en a d'autres qui sont spécifiques au palu. Le médecin veut découvrir s'il a la fièvre typhoïde, s'il a le palu ou bien s'il a une autre maladie. Parce que tous ces symptômes qu'il donne là, si on attaque sur la base des symptômes, on peut ne pas toucher la maladie et le monsieur va mourir. Et on a vu des médecins, parce qu'ils ont posé le mauvais diagnostic, ils n'ont jamais pu guérir quelqu'un. Le problème de l'église, c'est un problème de diagnostic. Souvent, je me pose la question, pourquoi tous ces camps de prière, sur la route d'Adabou, ici, ces camps de prière, ces veillées de prière, malgré tout ça, les chrétiens sont comme ils sont, et puis les gens ne changent pas dans le temps. C'est parce qu'en réalité, il y a un problème de diagnostic quelque part. Parce que si tel et ça pouvait résoudre les problèmes des gens, mais il y a longtemps, les gens sont bien, ça va. Mais on remarque que les mêmes gens vont dans la même veillée, ils tombent, ils reviennent, ils tombent, ils reviennent, ils tombent, ils reviennent. On fait des queues d'âme, on verse huile sur les têtes, on les fauche, ils tombent, tout ça. Imposition des mains là, on fait jusqu'à. Il y en a qui sont chauves, il y en a même ici, là, rien ici, il n'y a plus de cheveux. Mais malgré tout, change pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de diagnostic. Donc, il est important, quand tu es face à une difficulté, de bien poser ton diagnostic. Donc, écris ton problème pour faire la différenciation entre. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est émotionnellement malade, il y a des symptômes naturellement qui vont accompagner sa maladie émotionnelle. Numéro un, c'est quelqu'un qui sera très nerveux. C'est quelqu'un qui sera dans l'insécurité face à l'estime de lui-même. C'est quelqu'un qui va être irritable. Mais imagine-toi, quelqu'un, tu lui parles bien, il te parle mal. Quelqu'un qui est toujours irrité. C'est quelqu'un qui est toujours nerveux. Tu vas dire, mais le frère là, il est bizarre. Il est toujours nerveux. Prions pour que Dieu le délivre de la nervosité. Non, ce n'est pas la nervosité son problème. Son problème est un problème de guérison émotionnelle. Si tu as guéri cette maladie, cette blessure émotionnelle-là, automatiquement, la nervosité, l'irritation, tout ce qui suit là, s'en va. Est-ce que vous suivez? Donc, pour régler un tel problème, tu ne vas pas venir t'asseoir à l'église pour dire, on dit que je suis nerveux, on dit que je me fâche trop. Mais qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? C'est ça, c'est sur ça qu'il faut mettre le doigt. Pour attaquer le problème et régler le problème et afin de tu te fâches vite, tu es toujours nerveux là, ça va partir. Donc vous allez voir que beaucoup de gens sont désagréables comme ils sont dans l'église là. C'est un problème émotionnel. Hein? Leur maladie est quelque part. Eux-mêmes, la plupart du temps, ils ne savent même pas où est la maladie. Oui, beaucoup de gens ne savent pas quel est leur problème. Ils se lèvent matin, il est fâché contre tout le monde. Demain matin, il est content contre tout le monde. Il sait que quelque chose ne va pas, mais il n'arrive pas à mettre le doigt lui-même sur ce qui ne va pas. Et il pourrit la vie de tout le monde. Mais il faut trouver le problème. Parce que tant qu'on ne trouve pas le problème, les symptômes vont continuer à agir. Et les symptômes, c'est un peu comme si tu veux, tu vois, tu prends un manguier, tu vois des mangues, coupe, tout ce qui est mangue, allez. Mangue pousse plus dessus, allez, abracadabra. Puis t'en vas. Tu as prié. Je reviens 6 mois après. Aussi sûr que c'est un manguier, il va faire quoi? Mangue va sortir encore. Et tu as dit, mais j'ai fait cette délivrance-là. On a chassé. Esprit de nervosité, sort. Ha, ha, ha. Mais si l'esprit qu'on appelle. Si l'esprit qu'on appelle n'est pas là, à un moment donné, mon cher, fais attention à ton propre esprit, attrape-le bien, parce qu'il risque de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, mets le doigt sur ton problème. Amen. C'est sérieux, hein? C'est un travail sérieux, c'est personnel. Je te donne des indices. Amen. Mais toi-même, va t'asseoir et analyse, écris, fais la différence. Tu vas mettre le doigt sur le problème réel que tu as. Parce que chacun se connaît. Frère, tu te connais. Tu te connais. Tu te connais. Écoutez, avec Dieu, on ne peut pas mentir. Hein? Chacun se connaît. Chacun sait. Dieu t'a au moins parlé une fois. Tu sais, Dieu, il avertit toujours. Tu sais quel est ton problème réel. Tu sais. Mets le doigt dessus et règle ton problème. Règle. Il y en a qui vont te dire, ah, pasteur, les femmes me fatiguent. Tu es sûr que c'est les femmes qui te fatiguent? Si tu prends bien tes affaires, tu analyses, tu vas mettre le doigt sur ton vrai problème qui fait que les femmes viennent comme fourmis. Parce que si tu mets du sucre ici, là, les fourmis vont venir, n'est-ce pas? Mais le problème, ce n'est pas... Les fourmis ne venaient plus ici. On ne veut plus de fourmis. Allez. Si tu n'enlèves pas le sucre. Il y a des gens qui ont un esprit de séduction. Si tu ne règles pas, tu ne fais pas... Tu ne permets pas à Dieu de sortir cet esprit-là en toi. C'est normal que tout le monde te voit. Tout le monde a envie juste de faire de toi une maîtresse. Tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive comme ça. Personne ne veut me marier. Tout le monde veut me prendre pour faire truc. Mais en fait... Au nom de Jésus, je chasse tous les regards qui sont sur moi. Ce n'est pas que je les chasse. Tu pries et tu règles ton problème. Quand on te voit, tu ressembles à quelque chose de bon. Quel langage ta vie présente? C'est à ce langage-là que le monde répond. Le figuier a parlé. C'est un langage invisible. Jésus a répondu au figuier. La vie va toujours te répondre. Mais souvent, ce n'est pas un langage audible. Règle ton problème. Amen. Tu es un voleur. Règle ton problème. Amen. Parce qu'il y a des voleurs. Mais il ne sait pas qu'il est un voleur. C'est bon? Écris. Fais la différence entre les symptômes et le vrai problème. Guéris le problème, les symptômes vont disparaître. Les signes là vont partir. Sinon, si tu te trompes de diagnostic, c'est comme une femme qui dit, moi, pasteur, tu vois actuellement tous les garçons que je cherche là, c'est parce que je n'ai pas mari. Elle s'est trompée de diagnostic. En te donnant un mari, tu as cherché trois fois plus. Parce que mari ne calme pas problème de sexualité. Ça amplifie ça. Donc si tu aimes trop aller à gauche, à droite, ne dis pas non, j'ai besoin juste de me marier et puis te cacher derrière le mariage, crois qu'en trouvant une femme ou en trouvant un homme, tu as réglé ton problème. Non, tu n'as pas réglé ton problème. Sinon, tu vas entrer, tu seras toujours frivole. Tu vas entrer, tes yeux vont tourner comme une torche, cherchant. C'est qui ça? Ouh! Ouh! Toi, tu ne peux pas voir quelqu'un et puis... Là, parce qu'il y a des gens... C'est terrible. Tu ne peux pas voir quelqu'un et puis dire, ouh, il est mignon. Ouh! Il est bien croqué. Mais ça ne va pas chez toi. Et on te parle, tu dis, oui, non, j'ai dit ça comme ça. Tu n'as pas dit ça comme ça. Alléluia. Laissez les gens tranquilles. Règle ton problème. Dis amen. Ça peut aller. Non, ce que je te dis est sincère. C'est vrai, je fais ça pour que toi, relaxes, mais c'est sérieux. Règle ton problème. Fais la différence, les symptômes. Les symptômes, là, c'est ce que tu vois actuellement, plein autour de toi qui te fatigue. Mais va au fond pour toucher le problème à la racine et tire la racine. Tu verras, les symptômes vont mourir. Tu ne peux pas être toute ta vie à apprécier tout le monde. Tu vois lui là, tu vois lui là, tu vois lui là, tu vois lui là, tu vois lui là. Tu as un problème dans ton cœur. Tu as un problème dans ton cœur. Troisième clé importante. Quand tu as morcelé Tu as fait la différence entre les symptômes, le problème lui-même. Alléluia. Tu dois faire ce troisième pas. Tu dois maintenant morceler le problème pour le résoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, en stratégie militaire, les généraux ont l'habitude de faire une chose. Vous savez, les généraux qui sont les hommes de guerre, quand ils doivent entrer en guerre, ils font quoi? Cette stratégie-là est universelle. Ils regardent et ils étudient la situation attaquée. Et ils vont morceler la difficulté là en plusieurs points de difficulté. Vous comprenez? Par exemple, il peut morceler en 5 ou en 6 points de difficulté. Il dit, on doit attaquer la cité, mais voilà, au nord, il y a ça, au sud, il y a ça, à l'est, il y a ça, au centre, il y a ça. Maintenant, il va morceler en zone de difficulté. Et dans la stratégie, c'est que il va maintenant demander à ses troupes, on va attaquer. On va aller par la zone où il y a moins de protection possible. C'est-à-dire la zone la plus faible. Mais c'est en fait une stratégie, mais qui a en même temps une stratégie de sagesse. Parce que vous savez, dans le combat spirituel, face à nos difficultés, on a besoin de foi. Si quelqu'un peut me dire amen. Donc lorsqu'ils morcellent, ils te disent, voilà la zone la plus fragile où il y a moins d'hommes à trouver. Donc, quand on va attaquer à minuit, commençons par là. Parce que là, la probabilité pour qu'on ait la victoire est grande. Mais pourquoi ils passent par la zone la moins difficile? C'est pour s'encourager, c'est-à-dire avoir une victoire qui va leur donner la possibilité de grandir encore dans leurs convictions et attaquer les autres zones qui suivent. Donc ils vont pas, c'est-à-dire ils vont de façon croissante, c'est-à-dire ou décroissant, moi je dis croissant, c'est-à-dire ils passent par la zone la moins difficile. Ensuite, quand ils ont eu la victoire, ils attaquent l'autre zone qui était un peu plus difficile. Mais là, n'oubliez pas qu'ils ont un facteur de plus. La victoire qu'ils ont eue hier leur donne un peu plus de force et de conviction pour attaquer la zone où il y a un peu plus de monde. Quand ils ont gagné, ils ont encore plus de force et de grâce pour attaquer la zone. Jusqu'à ce que, à la fin, ils aient résolu tout le problème. Mais ça, c'est la sagesse. Tout le monde dit avec moi la sagesse. Ça veut dire quoi? Un problème, on n'attaque pas un problème comme ça pour dire, voilà, j'ai fait 50 ans avec cette fille-là, et c'était ma maîtresse, je ne veux plus, hey, tu m'amènes, toi, c'est terminé. Non, ça ne va pas marcher. Alléluia. Ça ne va pas marcher. On ne résout pas un problème comme ça en décidant. Dis oui, parce qu'il y a longtemps tu décides là. Est-ce que tu as réussi à faire? Non, il faut une stratégie pour attaquer un problème. Alléluia. Lis-moi Proverbe 24, verset 3. Qu'est-ce que Proverbe 24, 3 dit ici? Et quelqu'un d'autre me prend Ecclésias 9, verset 16. Oui.
Proverbe chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève.
C'est par la sagesse. Est-ce qu'on peut répéter? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ecclésias 9, verset 16. Oui.
Verset 16. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mm-hmm. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Mm. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris.
C'est ça? 16, 9, 16.
Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force.
Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force.
Mm-hmm. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées.
Merci. Il dit la sagesse vaut mieux que la force. Donc, dans la résolution d'un problème, il te faut de la sagesse. Ce n'est pas tout le temps que tu as fait avec la force. Je coupe, je ne parle plus avec le monsieur. Quand je le vois, il passe à gauche, je passe à... C'est un peu comme ça, certaines églises qui disent, oui, bon, chère sœur, marchez dans la sanctification. Tu vois un frère, ne le regarde pas. Tu vois une sœur, ne la regarde pas. Marche comme ça, et puis on dit, non, nous, on ne regarde pas. Ce n'est pas ça. Le problème réel, c'est que tu dois être capable de regarder et ne pas convoiter. Sinon, la chose est en toi. Sinon, tu n'es pas guéri. Tu vois, les gars, ils ont les trucs, ils attachent leur tête, mes petits yeux ici. Dans... Bon, on les connaît, bon, je ne veux pas, suis mon regard. Jusqu'en bas. Frère, ce qui est en bas de Boubou, là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dis amen. Dieu veut que tu arrives à un niveau où tu es délivré. Alléluia. La chose est là, elle n'est pas là. Tu es délivré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Ce n'est pas fuir. Ou dire non, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, pour que ce gars-là ne me tente plus, j'ai décidé de faire ça. C'est vrai qu'il y a des résolutions à prendre. C'est important de prendre certaines résolutions. Mais les résolutions viennent en renfort, tout simplement. Mais ces résolutions que tu prends pour dire, je ne parle plus avec lui, je ne veux plus te voir là, ce n'est pas ce qui résout le problème d'abord. Ce n'est pas ce qui résout le problème d'abord. Hein? Non. Parce que dans tous les cas, tu parleras avec des hommes. Tu es une femme, tu parleras avec des hommes. Si tu ne règles pas ton problème pour dire, à chaque fois que tu vas voir un homme, tu fermes tes yeux. Parce que tu verras des gens bien et beaux, qui sont plus beaux que ton mari. Ou des femmes qui sont plus belles que ta femme. Mais le problème, ce n'est pas de dire, ah non, moi j'ai décidé quand je vois une femme, maintenant je ferme mes yeux. Non, frère. C'est de comprendre que dans la vie, quand tu as fait un choix, il faut assumer. Et que c'est vrai que tout ce que tu vas voir, ça dit ta femme ne sera pas plus belle que toutes les femmes. Il y a des défauts qu'elle aura, que d'autres auront des qualités. Mais dans tous les cas de figure, tu as pris une décision et tu assumes la décision. Amen. Maintenant, quand tu arrives à ce point-là, même quand tu rencontres quelqu'un qui est plus joli que ton mari, ça ne te dit rien. Amen. Tu bénis Dieu pour la femme qu'il a. Amen. C'est tout. L'herbe n'est pas toujours verte sur le voisin. Amen. Tant que tu n'as pas expérimenté ce que l'autre vit, mon frère, il faut remercier Dieu. Alléluia! Alléluia! Le bonheur, il est relatif. Ce que toi t'appelles bonheur, moi je peux ne pas appeler ça bonheur. Donc, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un pour dire, moi j'ai vu le bonheur et lui, non. Qu'est-ce que tu appelles bonheur? C'est relatif. Lui, il aime les lits durs, toi tu aimes les lits mous. Tu dis, moi je suis trop heureux, mon lit est mou. Lui, il dit, lui, il est heureux, toi tu souffres. Donc, vous voyez que l'affaire est compliquée. Alléluia. Donc, c'est de la sagesse de comprendre que quand tu as une difficulté, il faut analyser la difficulté, morceler la difficulté et attaquer par zone de force. Alléluia. Par exemple, si, j'ai donné l'exemple, par exemple, tu as un problème avec ta secrétaire. Tu ne dis pas, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma secrétaire, je te chasse. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas résolu ton problème. C'est de voir en plusieurs zones. Quelle est la zone facile? Numéro 1. Je ne vais plus manger avec toi à midi. Terminé. Ça, c'est le plus facile que je peux gérer. Tu trouves toujours quelque chose à faire, tu es occupé. Maintenant, après, tu vas passer à... Quand ça est réglé, tu passes à une deuxième chose, non? Mais doucement, doucement. C'est plus 5, c'est 4 maintenant. Un est parti. Tu attaques le troisième. Tu cherches. Tu sais que là, je peux attaquer, je peux avoir. Mais le temps que la personne se réveille, tu es pas. Il y a longtemps, tu es parti. Parce que si tu essaies de frontalement de dire oui, je ne veux pas, elle va entrer dans toutes ses stratégies. Et puis tu vas voir si tu ne vas pas t'en sortir. Oui, mais je te dis, il ne faut pas provoquer les gens. Il te faut la sagesse. Dis amen, dis amen, dis amen. C'est une femme, il ne faut pas la provoquer. Si tu la provoques, elle va te dire, ah bon, tu dis, tu ne veux plus. Ok, on va voir. Elle vient, elle est sapée, machin. Tu dis, hé! Il faut la stratégie. Dis amen. Il te faut la stratégie. Sinon, tu vas contourner et tu ne vas pas t'en sortir parce que tu vas voir que les saisons ont se suivent, c'est les mêmes difficultés que tu vas expérimenter. Et tu vas te rendre compte que, à un moment donné, tu peux t'accommoder pour dire, peut-être que c'est mon, bon, c'est ce que j'ai, c'est mon problème et puis je vis avec. En fait, parce que tu n'as pas su attaquer le problème et résoudre le problème comme il faut. Tout problème peut se résoudre. Dis avec moi, tout problème peut se résoudre. Il te faut juste de la sagesse. Même si à la maison, par exemple, tu as un problème avec ton épouse. Il y a des palabres, vous n'arrivez pas à vous entendre, ça parle, l'autre parle, l'autre parle. Ce n'est pas en criant pour dire, je te dis, c'est moi le chef. Ce n'est pas ça. À un moment, il faut te calmer. Et puis, commence à écrire. Pour voir quels sont les différents fronts sur les difficultés que tu rencontres avec ta femme. Et puis, va fond par fond. On n'attaque pas tout en même temps. Mon ami, tu ne vas pas t'en sortir. Jésus n'a pas attaqué tous ses ennemis en même temps. Oui, mais lisez, à un moment donné, quand on a failli l'attraper dans Acte 1, il a fui. Ce n'était pas le temps. Il a fui. Il attendait parce que ce n'était pas le temps. Alléluia. Il y a tout, les chrétiens sont devenus trop... Bon, en fait, souvent, c'est un manque de connaissances, hein, tu vois. Ils sont trop zélés. Un zèle qui dépasse la mesure. Lui seul, il veut attaquer le pouvoir. Lui seul, il attaque les sorciers de Dabou. Lui seul, il attaque. Mon frère, tu vas t'écrouler. Il dit non, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, puis ici, des versets, sans réfléchir. Jésus a dit, tu vas attaquer, puis il dit, je vais à Dabou. On dit non. Les gens doivent danser leur truc là. La frontière est fermée. Il dit non, je vais montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais entrer. Mon frère, est-ce que c'est Jésus qui t'a envoyé là-bas? Toi seul, tu as le pouvoir sur le dos. Tu as les sorciers sur le dos. Mon frère, mieux vaut t'entendre le pouvoir un peu. Et puis, il règle le problème des sorciers. Mais toi, tu as tout. En même temps que les sorciers t'attaquent, on t'envoie facture. On te dit, bon, mon ami, il y a un problème foncier. Là où tu es, on doit te vider. Tu n'as même pas le temps de te concentrer sur les sorciers là. Parce que tu ne t'entends même pas avec les gens, le maire. Et donc, il t'a envoyé un problème foncier. On veut te vider. Et puis, en même temps, ton voisin aussi dit, ce type-là même, il n'est pas bien. Il est comme un... Toi seul, comment tu vas faire? Tous les fronts sont ouverts. Tu dis Seigneur, oh Seigneur, tu as commencé à chanter les chansons qui font pitié. Quelles sont ces chansons-là? Donnez-moi un. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie. Tuez-moi aujourd'hui, je vais partir. Mon ami, Dieu ne veut pas que tu ailles maintenant. C'est un suicide. Les gens se suicident, ils disent Dieu les a appelés. Dieu ne t'a pas appelé. Arrivé là-bas, l'archange Michel est surpris. Il dit, tu fais quoi ici? Tu dis non. Ce n'était pas mon temps. On dit, ce n'est pas ton temps. Tu fais quoi ici? Le gars s'est suicidé. Tu sais, quand tu vois que tu as un problème quelque part, il ne faut pas en chercher d'autres. J'ai dit souvent aux gens, si tu as déjà un problème que tu es en train de résoudre, il ne faut pas aller prendre main dessus. Il y a des gens, ils savent qu'ils ont un problème déjà avec les femmes. Tu fais quoi dans bière? Tu t'en vas prendre à faire des bières pour mettre dessus. Et tu as fini bière, maintenant tu vas corruption pour mettre dessus. Ah, tu ne vas pas t'en sortir. Laisse le 1 impur, va jusqu'au bout. Règle 1, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. C'est la sagesse. Voilà pourquoi on demande aux gens de faire un effort pour ne pas ajouter à leur vie des difficultés inutiles. Tu sens quelque chose qui veut venir, qui n'est pas utile, coupe d'elle maintenant. Coupe même avant que la chose ne prenne forme, parce que ce sera un fardeau supplémentaire qui va ralentir ta course. Toi-même, tu marches avec le monsieur là. Tu ne sais pas qu'il veut te chercher. Tu fais les trucs, tu ne sais pas que le gars là, tu sais ce qu'il cherche, mais tu es là, il t'appelle, tu t'en vas, il est là, tu dis bon, c'est pas grave. Non! Quand tu as vu venir, il faut tuer ça dans l'œuf. Tu n'as même pas fini de régler ton problème que tu as sous ta main et tu vas aller prendre d'autres mains dessus. Voilà comment certaines personnes s'écroulent. Eux seuls ont 1000 problèmes. Tu parles à le frère, il a 1000 problèmes. Et j'ai dit aux jeunes gens, aux jeunes frères, dernièrement on s'est vus, on va se revoir ici la fin du mois. Les jeunes frères de 15 à 35 ans, 40 ans, toute cette jeunesse-là, qui souffre réellement, qui souffre, ils n'ont aucun repère, ils ne savent pas où aller, ils ont plein de difficultés. Il y en a qui sont prisonniers de leur propre beauté, prisonniers de leur petit succès. Dieu a soufflé sur eux, il n'a pas encore versé de l'eau. Et lui-même ne fait rien pour arranger la situation. C'est souvent mieux vaut être vilain. Tu sais, moi je ne comprends pas certaines sœurs. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si je vous parle. Pasteur, je veux un mari. Ah bon? Je veux un mari grand, tu vois, en forme, clair, bien, qui a une belle voiture. Tu peux supporter ça? La plupart des gens comme ça, là, ils ne s'en sortent pas. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, ils ont des caricatures. Tu vas me dire, oui, est-ce que Dieu ne peut pas donner quelqu'un qui est bien, qui est tout ça? Il peut le faire. Dieu peut le faire. Mais souvent, église, tu sais, parce que dans tous les cas, ça c'est une enveloppe extérieure. Il n'y a rien dedans. Cherche la volonté de Dieu. Un homme qui va me donner la paix et la tranquillité, qui va m'aider à achever ma course. Ça, c'est mieux. Tu fais des caricatures, ok, tu vas trouver. Mais tu vas voir que la plupart des gens qui sont comme ça, c'est comme une de mes soeurs à Paris me disait un jour qu'elle n'est pas convertie. Hein. Et elle me disait un jour, pasteur, vraiment vous êtes bien. Elle dit un jour, une de mes camarades camerounais m'a envoyé quelque part dans une boîte de nuit. Elle n'est même pas convertie. Elle dit, mais je me suis rendu compte que tous les beaux hommes de Paris sont pédés. Elle dit, quand ils sont arrivés dans la boîte là, c'était une boîte d'homosexuels. Il n'y avait que des hommes, médecins, pharmaciens. Des hommes beaux, des hommes musclés, des hommes comme les femmes veulent là. Tout était là-bas. Propre, leurs ongles bien coupés. Il n'y a pas de truc. Ils font des trucs, ils mettent un peu de trucs bleus ici. Tu vois, si le monsieur il est beau, bon, mon ami, c'est pas beauté, on mange à Abidjan ici. Ça ne veut pas dire que quand tu es un homme, il ne faut pas mettre un minimum. Mais je veux dire, quand tu vas quelque part dans la vie, il y a des considérations là, sincèrement. Il faut laisser. Pour privilégier ta destinée. Elle sa vie avec problème. Regardez. Belle fille, il y a des frères. Je veux belle fille. Il veut fille qui a figure. Figure vraiment calculée. Le nez calculé. Mon ami, de toute façon, c'est calculé là. Sur ça, 1000 personnes vont avoir les yeux dessus. La pauvre, malgré tous ses efforts, ça tire de tous les côtés sur elle. À un moment donné, mon frère, elle va marcher quoi. Mais on tire. Et si tu n'as pas, j'ai dit, si tu n'as pas la grâce de Dieu, si son cœur n'est pas bien, là aussi il y a deux cas. Alléluia. Mon frère, la vie est compliquée. Ah oui, je vous dis. Moi, je connais un ami pasteur. Je ne dirai pas son nom. Quand il devait se marier, je lui ai dit, il avait me voir. Je lui ai dit, tu sais, tu as un avenir. Trouve une femme qui craint Dieu et qui. Il dit, non, lui, il veut une femme, une belle femme. Il est allé. La femme, il a pris là. Non, elle était sophistiquée. En tout cas, sophistiquée, elle était. Mais la femme aussi, comme elle cherchait un homme, elle a joué le jeu. Mais quand il a marié la fille, tous les problèmes qu'il a dans son ministère aujourd'hui, c'est la femme-là. Après, elle dit non. Toi, tu es là, ça fait de prier. Moi, je suis jeune. Et je te dis que je suis jeune. Elle lui parlait, moi, je suis jeune. Le monsieur, il ne sait pas comment il va faire. Mais la femme est sophistiquée. Quand on dit aller prier, elle n'a pas envie de prier. Il dit, on ne fait pas ça. Il dit, non, moi, elle aime chaîne aux pieds. Il dit, non, tu es maman pasteur. Elle dit, ça veut dire quoi? Je suis jeune, tu m'as trouvé, est-ce que j'étais vilaine? Elle va discuter avec le gars. Et c'est compliqué dans la vie du monsieur. Compliqué! Compliqué! Chaque fois qu'elle me voit, il dit, hey, c'est pas facile. Je dis, ah, c'est pas facile. Que Dieu te soutienne. Vous savez, on ne se marie pas pour les besoins présents. On se marie toujours pour l'avenir. Tu vas être déçu, hein? Tu vas être déçu si tu te maries pour tes besoins présents. Parce que les besoins changent. Et très souvent, les besoins que nous avons maintenant, là, les attentes que nous avons maintenant, par rapport à ce que nous aurons demain, il y a un déphasage. Plus tu grandis, plus toi, l'aspect de la volonté de Dieu pour toi s'ouvre. Et tu comprends la vie jusqu'à un certain niveau. Malheureusement. Il faut résoudre ton problème. Morcelle-les et attaque avec sagesse, front après front. Front après front. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, il y a un élément important que je vais t'expliquer. On est au quel point? Morcelé. Allons au quatrième point. Quatrième point, ou quatrième clé important. Maintenant, quand tu as morcelé, rassemble les ressources nécessaires à la résolution de ton problème. Tu as bien morcelé, tu sais où attaquer. Assure-toi que tu as tout ce qu'il faut comme ressources. Parce qu'un problème ne se règle pas comme ça, sans ressources. Non, église. Chaque problème a sa solution. Vous savez, c'est différent de ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, chaque problème au départ a une solution. Ou chaque problème peut se résoudre. Mais ici, je dis, chaque problème a sa solution. Ça veut dire, ce n'est pas toutes les solutions qui règlent un problème. Regardez par exemple, je reviens à l'histoire encore de David et Goliath. Goliath était un géant. Goliath était un gros problème face à la nation d'Israël. Goliath était un passage obligé pour que Israël demeure libre, pour ne pas qu'Israël entre sous l'esclavage des Philistins. Donc ce n'était pas un petit problème. Mais pour résoudre l'équation Goliath, Dieu va parler à David pour lui dire, n'oubliez pas que Saül, le roi, a proposé à David quoi? Des armures. Mais ouais, la solution de Saül n'était pas la bonne solution. Parce qu'on peut utiliser une calache face à un problème donné, ça va marcher. Mais on ne peut pas utiliser calache face à Goliath. Dieu dit à David, pour ce problème-là, voilà la solution, c'est des pierres. Va dans le torrent, ramasse des pierres. Tout le monde dit avec moi, pierre. Mais vous savez, et ça je vous ai dit un jour que votre solution, regardez bien votre problème, votre solution est toujours attachée à votre problème. C'est-à-dire, une solution face à un problème n'est jamais loin du problème. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu identifie Goliath. Et la solution qu'il donne à David est une solution qui est attachée à la personnalité de Goliath. Parce que vous savez que Goliath est un Philistin. Et les Philistins sont des inconvertis, des incirconcis. Et dans la Bible, les incirconcis sont appelés chiens. Et un chien, on ne le tue pas avec une calache, mais avec des pierres. Donc, en fonction de l'identité spirituelle de Goliath, ce ne sont que des pierres qui pouvaient tuer Goliath. Vous voyez que c'est important face à un problème de trouver la bonne réponse. Donc, les ressources nécessaires là sont importantes. Identifie la bonne ressource. Alléluia. Et à ce niveau-là, il y a deux types de ressources majeures importantes que vous devez savoir. Il y a des ressources naturelles et il y a des ressources, quoi? Spirituelles. Ça veut dire quoi? Face à la résolution d'un problème qui vient vers toi, tu as deux grandes familles de ressources. Ressources naturelles, ressources spirituelles. Alléluia. Mais vous voyez, beaucoup de gens souvent commettent des erreurs. Et je dis aux chrétiens, arrêtez de tout spiritualiser. Ils ont mal de tête, ils s'en vont parler en langue jeunesse pendant 100 jours. Ce n'est pas utile. Prends aspirine et bois et puis ferme ta bouche. Parce que vous savez, même Dieu, parce que les gens pensent que Dieu n'est pas bête. Si un des collaborateurs de Jésus était médecin, ça veut dire que les médecins là, Dieu n'a rien contre les médecins. Les gens sont frileux de tout ce qui est technique médicale. Si une technique médicale peut régler ton problème, pourquoi aller emmerder Dieu avec des cris? Jusqu'à même Dieu a fermé la fenêtre. Il a dit à la canne du mitège, il dit fermez, doublez la fenêtre. Le gars là me fatigue. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu as crié jusqu'à ce que tu n'auras plus de voix. Frère, ça ne changera pas Dieu. Ce n'est pas tes cris qui changent Dieu. Donc il y a des problèmes qui seront face à toi. La solution sera naturelle. Ce n'est pas tout, on va crier. Je vous dis la vérité, ce n'est pas tout, on va crier. Bien que, en tant qu'être spirituel, nous croyons la prière. Et nous croyons la prière. Nous croyons que Dieu fait des miracles. Dieu guérit. La preuve, nous voyons Dieu faire des choses extraordinaires tous les jours, ici, dans cette église. Des hommes malades guéris, des hommes qui ont des problèmes, qui reçoivent la solution à leurs problèmes. Mais, ce que je suis en train de dire, il va y avoir des problèmes qui viendront devant toi, où Dieu va te demander simplement d'être un homme sage et de trouver la solution dans ton environnement immédiat et de régler le problème. Ton mari te parle. Tu sais que si tu réponds, par là va sortir. Tu as besoin de parler en langue pour ça? Ne réponds pas, c'est tout. Tu ne parles pas et il parle, tu es en train de faire ton truc. Il crie quand il se tait. Maintenant, tu dis non, il faut que je jeûne, je prie, cette maison, on ne s'entend plus. Mais tu sais que vous pouvez vous entendre si elle accepte de se taire. Ça va vous éviter tous ces jeûnes et prières inutiles que vous faites là. C'est inutile. Tu sais, les juifs disent, quand tu as semé, tu as prié. Le semeur, qu'il veuille, qu'il dorme, la semence produit d'elle-même. Ça veut dire quoi? Il y a des choses dans la vie, quand tu les fais naturellement, Dieu approuve. Alléluia. Ton enfant est là. Il faut l'éduquer dans les voies du Seigneur. N'attends pas qu'il vieillisse, qu'il commence à prendre des raccourcis pour commencer à parler en langue. Libra, lobro, mon fils, il faut qu'il devienne intelligent. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Non, mon ami, tu aurais dû faire ça depuis. Donc, je veux dire, il y a des choses qui n'ont pas besoin de fatiguer Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Il a dit de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, mais il n'a pas dit de ne pas l'utiliser. L'Église, quand on devient chrétien, on ne devient pas amnésique et fou. On est équilibré. Tu es dans un quartier, tu habites, on dit, on t'a affecté dans un quartier, monsieur Yapo. Tu sais, tu viens, tu arrives au quartier, on dit, ah, le quartier, c'est un quartier où il n'y a pas trop de sécurité. Tu as une cour, Dieu t'a donné l'argent, il te paye, tu vas te payer 5 millions par mois. Au lieu d'aller mettre barbelé électrique ou bien payer un truc de sécurité, tu dis non, la foi. Chaque nuit, tu passes, riba, roko, riarara, ri. Les gens vont venir te voler. Tu sais, tu as demandé où était Dieu. Mais Dieu est là. Le problème, c'est que dans ce que Dieu fait, tu as une part. Frère, tu sais, une fois, j'ai dit à quelqu'un ici, j'ai dit, mais le vigile qui est là, il est armé. Qui me dit, mais pourquoi il est armé? J'ai dit, non, c'est juste dissuasif. Parce que je veux sauver des vies. Pour ne pas qu'ils viennent voler, que Dieu les frappe. Tu sais, il y a des choses qui sont dissuasives. Donc, tu marques un premier rideau que toi-même tu peux marquer. Maintenant, si ton rideau que tu as pu marquer par tes forces, quelqu'un a passé ça, Dieu prend le relais. Mais quand tu n'as pas tout fait, quand tu n'as pas tout fait, alors que tu peux tout faire, ne compte pas sur Dieu. Tu sais, Dieu commence là où toi, tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire quoi? Tu as fait ce que naturellement un homme peut faire. Maintenant, si malgré ça, on passe ta barrière, Dieu dit non. Mais tu aurais pu faire même déjà, c'est-à-dire mettre une barrière de dissuasion, tu ne l'as même pas fait. Ça, ça dépendait de toi et de ton intelligence, tu ne l'as pas fait. C'est important, Église. Donc, la solution naturelle existe. Mais également, il y a une solution spirituelle. Et là, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le logos et il y a le réma. Moi, je mets le logos dans le volet naturel. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont écrites, qui sont là. Tu n'as pas besoin d'être en esprit pour voir. Je prends cette Bible-là. Je n'ai pas besoin d'être en esprit. Dieu me parle. Non, ça est là. J'ai mangé, mon ventre est bourré de foutou. Je viens, je lis. C'est écrit. Ça, c'est le logos. Le logos, on peut le mettre dans du domaine naturel. Ça veut dire quoi? La parole est là. Tu peux l'appliquer. Tu peux savoir ce qui est écrit. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux ne pas faire. C'est écrit déjà. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Maintenant, dans le volet spirituel, il y a le réma. Le réma qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de quoi? Qui dépend de Dieu. Donc, face à une situation, tu as essayé d'utiliser, par exemple, des solutions naturelles, ça n'a pas marché. Ou Dieu a dit, ne touche à aucune solution naturelle, je vais te parler. À ce niveau-là, Dieu va se révéler à toi pour te dire, voilà pour ce problème donné. Comme le problème a une origine qui n'est pas simple, voilà la solution que tu dois utiliser pour régler le problème. Donc Dieu va prendre des choses naturelles qu'il va te dire pour régler le problème. Pour Goliath, c'était des cailloux. Pour toi, ça peut être autre chose. Mais ça, Dieu va te parler. Mais à ce niveau-là, dans le domaine spirituel, la connaissance que tu as de ton Dieu est très importante. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas assez de victoire. Pourquoi? Parce que peu de gens connaissent réellement leur Dieu. Et tu sais, si tu ne connais pas Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire. C'est, quand tu es face à une difficulté là, Dieu veut te parler. Il ne parlera pas par un prophète. Beaucoup de gens vont consulter des prophètes. Ça, c'est avant. Maintenant, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est avec nous. On ne nous enseignera plus la parole de Dieu parce que l'Esprit lui-même nous enseignera. Donc, c'est important d'avoir une communion avec Dieu pour que face à une situation qui est difficile, tu as tout fait, la chose ne bouge pas, que Dieu t'indique la solution et la vraie qui va régler le problème. Mais si tu ne pries pas, il faut oublier ça. Parce que la prière et l'intervention divine est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier du christianisme. Tout le monde dit on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier la prière du christianisme. Mais la prière et l'intervention de Dieu ne sont pas des choses qui se font n'importe comment. Il y a des moments où Dieu va te dire, vas-y, parle, prends ça, donne. Quelqu'un vient te voir et dit, j'ai faim, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Tu vois le gars, Dieu ouvre tes yeux, tu vois, il n'a pas chaussures. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit vienne. Libra Kandorobo, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ainsi parle le Seigneur. Donne une chemise à ce monsieur. Trouve une chaussure pour lui. Dieu ne te dira pas ça. Dès que tes yeux ont vu, tu sais ce qui est droit dans la parole de Dieu, tu fais. Ça, tu l'as fait. Tu as une conscience chrétienne, tu l'as fait. Vous comprenez? Parce que ça, la Bible le demande. Il y a des solutions aussi. Tu vas voir que ces solutions-là semblent simples, mais on a traité le problème, ça ne marche pas. En ce moment-là, Dieu t'interpelle et Dieu te dit, entre maintenant dans ta deuxième dimension, ta dimension spirituelle, et appuie-toi sur moi, je te dirai exactement qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Dieu te parle et Dieu te donne la solution. Il peut te dire, fais une semence, fais une offrande, ou bien pose une action prophétique. Et quand Dieu a parlé à ton cœur pour dire, pose une action prophétique pour débloquer la situation, alors c'est Dieu qui t'a parlé. La chose arrivera. Mais pour tout ce que tu peux faire naturellement, si tu es là, action prophétique, tu vas faire ça, les pasteurs vont bouffer bien ton argent et puis la vie continue. Tout n'est pas action prophétique. Il y a des moments où ce sera action prophétique. Il y a des moments où ça ne sera pas action prophétique. Parce que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que Dieu est souverain. Écoutez-moi. Souvent, un problème qui se présente devant toi, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Souvent, ce n'est pas toujours qu'on résout le problème un coup. Souvent, Dieu va attendre. Tu vas essayer, ça ne marche pas. Et puis, il va te regarder. Tu dis, mais pourquoi? Il est Dieu, non? Mais oui, il est Dieu. David, quand il allait au torrent, il a pris combien de pierres? Il a pris combien de pierres? 5 pierres. Mais le chiffre 5 là, c'est Dieu qui lui a dit, prends les 5 pierres. Mais il a pris les 5 pierres pourquoi? Pour éventuellement, si le premier ne marche pas, que le deuxième suive. Si le troisième ne marche pas, que le quatrième suive. Il n'a pas pris les cinq pour lancer en même temps. Il a pris les cinq pour dire, yo, les gars, on ne sait jamais. Si il lance un, ça rate, au moins il y a un qui reste. Ça veut dire quoi? Il connaissait Dieu, il savait comment Dieu travaille. Frère, ce n'est pas tous les jours. Même Jésus a prié plusieurs fois pour un aveugle avant qu'il voie. On prie, il ne voit pas, il dit, je vois les trucs comme des arbres. Jésus dit, on va reprendre encore. Jésus prie encore, il dit, c'est flou. Ah bon? Dieu peut prier pour un homme deux, trois fois avant qu'il ça marche? Dieu est souverain. Dieu peut décider que le problème soit ok, un coup, ça marchera. Dieu peut t'observer. Tu as fait une fois, deux fois. Parce que vous savez, tout dépend de lui. En fonction de l'objectif qu'il veut atteindre dans ta vie, il peut te regarder faire. Tu échoues une fois, tu échoues deux fois, tu échoues trois fois, puis il te regarde. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'il veut que tu tires le son de la situation. Et quand tu comprends, tu réussis, tu as compris. Parce que si tu fais réussir un coup, tu ne vas rien comprendre. Il y a des gens, ils ont échoué deux fois, ils ont maudit Dieu. Ils louaient Dieu, ils dansaient pour dire, sans toi, ma vie n'est plus pareille. Seigneur, tu es toi seul. Seigneur, je suis ton épouse. Non, épouse. Premier échec. Seigneur, je suis ton cousin. Il n'est plus épouse, hein, parce qu'il a échoué. Troisième fois, il dit, lui, affaire de Dieu, il faut qu'il voie. Dans tous les cas, lui, il vient prier, il est derrière. Ce que Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. Dieu, tu veux me tuer, non, tue-moi. Oui, Dieu voulait voir l'état de son cœur. Et très souvent, quand Dieu te laisse face à un problème, c'est pour que tu te découvres. C'est pour que tu... Lui te connaît, mais toi, tu dois te connaître. Je vous ai dit ici un jour, si vous vous rappelez, que Paul, pour que Paul sache qu'il y avait un serpent parmi les amas de branches là, il a fallu qu'il mette le feu. Quand il a mis le feu, il y a un bois qui est devenu serpent. Ah, donc tous les bois, tous ceux-là ressemblaient à bois alors qu'il y avait un serpent dedans. Tu sais, si Dieu ne met pas le feu, il ne saura pas qui tu es. Et toi-même, tu ne sauras pas qui tu es. Parce que, tu sais, tu peux croire que tu aimes Dieu. Jusqu'à ce que tu tombes sur un problème que tu tentes depuis des années de résoudre, tu n'arrives pas. C'est là que tu vas comprendre que non, je ne savais pas que j'étais aussi mauvais. Non, Seigneur, je suis mauvais. Hein? Et tu vas comprendre que tu es mauvais. Dieu va te révéler ton propre cœur. Mais tant que tu n'as pas appris la leçon de savoir qui tu es, le stage continue. Je te pose la question ce matin, à quoi as-tu survécu? À quoi as-tu survécu? Si rien, tu ne fais que commencer où? Dis à ton frère, tu ne fais que commencer. Les gens qui pensent que l'église c'est un coin où on vient pour... On dit on danse seulement, il n'y a pas... Oh, l'église c'est parfait, il n'y a pas de souci. Oui, mais l'église est une école. Une école où Dieu forme les caractères. Où Dieu te met face à des difficultés pour révéler le géant qui est en toi. Dieu te met face à tes décisions, face à tes contradictions personnelles. À un moment donné, quand tu es devant lui et puis parle, tu te dis, c'est toi-même qui crie, ton jugement est droit. Amen. Et sinon, tu ne sauras pas. Donc, ce n'est pas un coup que ça va se faire. Ça veut dire quoi? Si ça ne se fait pas un coup, ça veut dire simplement, ici, tu dois résoudre. Je dis, premièrement, il y a la solution naturelle. Deuxièmement, la solution spirituelle. Et puis, donc, il y a la prière, il y a le jeûne. Quand tu prends le, comment on appelle ça, et Jérémie 33, verset 3. Dieu va te révéler ton propre cœur. Mais tant que tu n'as pas appris la leçon de savoir qui tu es, le stage continue. Je te pose la question ce matin, à quoi as-tu survécu? À quoi as-tu survécu? Si rien, tu ne fais que commencer où? Dis à ton frère, tu ne fais que commencer. Les gens qui pensent que l'église, c'est un coin où on vient pour... On dit, on danse seulement, il n'y a pas... Oh, l'église, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Oui, mais l'église est une école. Une école où Dieu forme les caractères. Où Dieu te met face à des difficultés pour révéler le géant qui est en toi. Dieu te met face à tes décisions, face à tes contradictions personnelles. À un moment donné, quand tu es devant lui et puis parle, tu qui dit, c'est toi-même qui crie, ton jugement est droit. Et sinon, tu ne sauras pas. Donc, ce n'est pas un coup que ça va se faire. Ça veut dire quoi? Si ça ne se fait pas un coup, ça veut dire simplement, ici, tu dois résoudre. Je dis, premièrement, il y a la solution naturelle. Deuxièmement, la solution spirituelle. Et puis, donc, il y a la prière, il y a le jeûne. Quand tu prends le, comment on appelle ça? Et Jérémie 33, verset 3, tu peux le lire. Alléluia. Jean 14, verset 13, vous pouvez le lire. La prière. Alléluia. Il dit, lis-moi Jérémie 33, verset 3.
Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu est celui qui répond aux prières. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen encore.
Amen.
Ah, donc le volet spirituel pour régler les problèmes, c'est un volet qui est clair. Dieu s'engage à nous répondre, à nous écouter. Jean 14, verset 13, qu'est-ce qu'il a dit?
Jean chapitre 14.
Oui, verset 13 et 14.
Verset 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
oui,
je le ferai.
Je le ferai.
Afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Mm.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Il répète, je le... Ça veut dire quoi? Si une situation est difficile, tu dis, Seigneur, je veux passer la situation. Il dit, lui, Dieu, il le fera. Mais vous savez, ici, là, il a parlé au quoi? Au futur, je le ferai. Mais il ne t'a pas dit quand? Je le ferai. Dis à ton frère, Dieu le fera. Et non, tu dis, il va le faire, mais quand? Quand? Maintenant, quand il dit, il te pose quand, tu fais quoi? Demandez-lui. C'est lui seul qui sait quand. Vous comprenez? Il est quand même patron, non? Un patron peut décider au moins quand il fait ces choses, non? Est-ce qu'on peut lui concéder le droit de faire quand il veut? Parce qu'il ne nous empêche pas de rêver aussi comme on veut. Ça va t'aider et ça va te délivrer. Ça va t'aider, ça va te délivrer, ça va te permettre de ne pas être quelqu'un qui, tu vois, qui est tout le temps en train de pleurer inutilement et te plaindre. Pourquoi Dieu n'a pas fait, moi-même je vais le laisser, Dieu m'aime la même, est-ce qu'il m'aime? Il t'aime. Le problème, il fait quand il veut. Mais son quand là est toujours bon pour toi. En petit point, dans le même quatrième point, applique plusieurs plans d'attaque. Ça veut dire quoi? David a pris cinq pierres. Ça veut dire, dans la résolution de ton problème, il est important, quand tu as identifié la solution naturelle, la solution spirituelle, il faut appliquer plusieurs plans d'attaque. Ça veut dire, ne mets pas une seule stratégie en place pour résoudre un problème. Parce que si la stratégie ne marche pas, il faut que tu aies une autre stratégie de rechange. C'est très important parce que Dieu n'est pas un homme. Tu peux faire. Tu croyais que ça allait marcher, ça ne marche pas. Est-ce que tu vas abandonner Dieu pour autant? Non. Il faut recommencer. Mais avec une autre stratégie. Tu as parlé à quelqu'un comme ça, il n'a pas écouté. Trouve une autre façon. Ne dis pas, j'ai parlé, n'a pas écouté, je ne fais plus. Non. Tu vas rester là. Trouve une autre façon de lui parler. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Parce que les hommes abandonnent trop vite. Vous savez, quelqu'un, on m'a raconté l'histoire de Thomas Edison. Ce monsieur-là, il est extraordinaire. On dit, il a fait une expérience et il a fait 50 000 fois l'expérience. C'était sur un truc de caoutchouc. Et puis les 50 000 fois là, l'expérience était mauvaise. Les résultats escomptés n'étaient pas les bons. Et son allié qui travaille avec lui dit, bon, écoutez, on a échoué, on a fait 50 000 fois la même expérience, ça ne donne rien. Thomas Edison qui prend la parole pour dire, vraiment, lui, il veut bénir Dieu de ce que c'est extraordinaire, tous ces résultats qu'il vient d'obtenir. Son gars le regarde pour dire, comment c'est extraordinaire? Il dit, oui, c'est extraordinaire parce que on vient d'apprendre 50 000 façons différents de choses qui ne marchent pas. Il dit maintenant, à la différence des autres, c'est que lui, il connaît 50 000 façons de choses qui ne marchent pas. Donc, il peut conseiller à quelqu'un pour dire, ça, là, ça n'a pas marché. Moi, je sais, tu ne sais pas. Alors que l'autre voyait l'échec. Et pour Edison, il dit à son collaborateur que, pour lui, échouer, c'est abandonner. Parce qu'il a vu l'échec, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux te dire ici, là, tu peux tirer comme leçon. La plupart des hommes considèrent quelque chose qui n'a pas marché, c'est j'ai échoué. Non, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Amen. Tu as appris quelque chose. Prochainement, tu ne feras plus comme ça. C'est pas quelqu'un qui n'est pas passé par là. Il y a quelque chose que tu sais qui ne sait pas. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui réussissent échouent autant que ceux qui ne réussissent pas. Mais le facteur déterminant, c'est la dernière ligne droite. C'est des gens qui n'abandonnent jamais. Et qui voient les choses autrement. Regardez comment il a vu. L'autre dit on a échoué, l'autre dit non, on a appris tellement de choses. Donc applique une solution. Ça ne marche pas, applique une autre. Ça va finir par... Puis, les chrétiens abandonnent tout. Tu le vois, le gars, il est là. Il dit aujourd'hui, j'ai fait le riz, ça n'a pas marché. Il est dans le poisson. Après, il dit, bon, je laisse tomber tout. Dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. J'attends qu'un prophète vienne me dire, je te vois dans huile, huile, je te vois dans huile. Changeons de mentalité. Alléluia. Cinquième clé, et je crois que c'est la dernière. Cinquième. Prenez la bonne décision malgré le problème. Tout le monde dit, prends la bonne décision malgré le problème. Ici, ce que je veux te dire, ne laisse jamais un problème t'empêcher de prendre les bonnes décisions. Tu ne comprends pas peut-être bien ce que je veux dire. Prenez les décisions qui règlent le problème et non celles qui cachent le problème. Vous savez, souvent, face à une difficulté, il n'est pas évident de prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on travaille trop dans le contentement. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui prend ou qui prend les décisions qui règlent le problème, que les gens soient contents ou pas. Alors que nous, les hommes en général, quand on se rend compte que, ah, c'est vrai que ça va régler le problème, mais ça peut créer des frustrations, on fait le choix de faire quoi? De laisser le problème nous faire d'autres choix pour contenter. C'est dangereux. C'est-à-dire, prends les bonnes décisions malgré le problème. On ne prend pas une décision pour faire un contentement. On ne prend pas une décision pour cacher le problème, on prend une décision pour régler le problème. Ça ne sera pas évident, parce que choisir de régler ton problème ne va pas rendre tout le monde content. Mais qu'importe, si c'est réglé, parce que ce qu'on retient à la fin, ce n'est pas le nombre de problèmes que tu as traversé, c'est les vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra. C'est les vainqueurs qu'on retient à la fin. Ce n'est pas ceux qui ont caressé dans le sens du poil. Ce n'est pas ceux qui ont été, qui ont contenté tout le monde. Qui sont des politiciens qui font en sorte que lui il est content, lui il est content, lui il est content. Mais il est conscient que la décision qu'il prend là, ce n'est pas une bonne décision. Il ne règle pas son problème, il déplace le problème. Non, Église, il faut régler les problèmes. Pour aller vers notre futur. Parce qu'un problème qui n'est pas réglé, il n'est pas réglé. Dis à ton frère, un problème qui n'est pas réglé, n'est pas réglé. Il est toujours là. Tu peux ne pas voir le problème, mais il est là jusqu'à ce qu'un jour, le problème te rattrape. Quelqu'un peut me dire amen?
Amen.
C'est important ce que je te dis, parce que dans notre marche vers le trône, la vie est faite de batailles. Ouh, des batailles dures. Et chaque bataille que tu gagnes, c'est un peu de progrès que tu as. Chaque bataille que tu échoues, chaque bataille qui te met KO, tu rétrogrades. Attendant que tu passes. J'ai dit ici un jour, si vous vous rappelez, Dieu va toujours te ramener au lieu de ta douleur pour te donner ta victoire ultime. C'est-à-dire, il ne va pas te faire passer. Pierre, quand Pierre a échoué là, Dieu l'a ramené sur les eaux. Parce que tu sais, là où tu échoues, c'est une limite que Satan marque à ta vie. Et si Dieu doit te faire avancer dans la vie, il te ramène à là où on t'a arrêté. Il faut dire maintenant, passe. Je vois quelqu'un passer ce matin. Je vois quelqu'un progresser ce matin. Je vois quelqu'un avancer ce matin. Quelles que soient les difficultés que la vie t'a imposées, ce matin, je prie que la grâce et la faveur de Dieu te soient accordées. Afin que tu fasses face à tes difficultés et que tu puisses remporter la victoire. Difficulté dans ton foyer, difficulté dans tes affaires, difficulté à tous les niveaux. Reçois la grâce et la faveur au nom de Jésus. Le problème peut avoir duré 50 ans. Mais si tu peux faire confiance en Dieu, je te dis, ici demain, le problème peut mourir. Je dis, si tu peux faire confiance en Dieu, ici demain, Dieu peut t'accorder la victoire. Est-ce que quelqu'un croit cela? Je dis, est-ce que quelqu'un croit cela? Alléluia! Nous avons foi en Dieu. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Et il fera pour toi des miracles. Mais même le miraculeux obéit à des principes. Les gens pensent que le miraculeux n'obéit pas à un principe. C'est faux. Le miraculeux obéit à des principes. Si ton système de pensée refoule le miraculeux, il y a des choses même que Dieu ne peut pas faire s'il veut faire dans ta vie. Je veux que quelqu'un se lève ce matin, on va prier. Frère, je ne sais pas à quoi tu as fait face. Tous les Goliaths ce matin vont tomber. Toutes les montagnes que l'ennemi a mis devant toi. Oui, pour t'affaiblir, pour détruire ta vie. Je commande que ces problèmes-là, oui, disparaissent de ta vie ce matin au nom de Jésus. Prends la résolution de régler ton problème et de ne pas t'arrêter au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Je veux que tu passes un moment et que tu identifies ton problème. Ton problème réel, identifie-le. Et dis, Seigneur, ce matin, je prends l'engagement de régler mon problème. Je prends l'engagement de changer ma vie. J'ai compris, Seigneur mon Dieu, qu'un problème peut ne pas dépendre de moi, mais la réponse au problème dépend de moi. Ce matin, je donne à mon problème une réponse favorable au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Libra katata. Tout le monde ouvre la bouche et parle à Jésus. Parle à Jésus. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur, au nom de Jésus, je ne sais pas quel Goliath a arrêté un frère et une soeur dans cette église. Je ne sais pas quelle difficulté a fait que nous avons baissé les bras. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, quel problème, Seigneur mon Dieu, est devenu comme une montagne. Ce matin, tu es le Dieu qui exauce les prières. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui ouvre les écluses des cieux et personne ne peut les fermer. Tu as dit tout est possible à celui qui croit. Ce matin, ah oh Seigneur mon Dieu, nous fixons notre foi sur ta capacité, ta grandeur à régler les problèmes, Seigneur mon Dieu. Tu as dit à celui qui vaincra, ta volonté c'est de nous voir avancer, ta volonté c'est de nous voir, oui, vaincre nos difficultés, les difficultés au quotidien. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne et je commande, oui Seigneur mon Dieu, que les difficultés devant les frères, oui, toi mon nom, envoyez-la devant ici, envoyez-la. Les frères, attrapez-la s'il vous plaît pour moi. Les bréquettes pour Riba Karababa. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Les bracatabarababa. Quel que soit le problème, je te libère. Je te libère. Je te libère. Les bracatabarafa. Allez, reçois la liberté au nom de Jésus. Laissez-la, laissez-la. Le Saint-Esprit agit maintenant. Allez, allez, sors. La chaville, allez. Je commande. Allez, allez, allez. Tout ce qui tient cette soeur liée, je libère sa vie maintenant ce matin.
Allez. Ah, allez, reçois la vie. Et sois complètement libre au nom de Jésus. Les Goliaths tombent. 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 Oh, bakata para ba. Au nom de Jésus, libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Reçois la grâce de Dieu de sortir. De sortir. Au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God, my God. Libra kataparabaka. Au nom de Jésus. Tu as levé la main droite vers le ciel. Tu sais, quel que soit le problème, ça peut être une maladie incurable. Enfin, une maladie incurable, c'est les médecins qui appellent ça incurable. Dieu n'appelle pas une maladie incurable. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies, quelle que soit la difficulté qui est devant toi. Qu'elle soit comme une montagne, qu'elle ait 100 ans, qu'elle ait 200 ans, ce matin, Dieu te communique la grâce de sortir. Lève la main et dis, je reçois la grâce de faire face à la situation et de vaincre la situation au nom de Jésus. Ce matin, je reçois la faveur de Dieu, la faveur de Dieu pour sortir de mon problème. Problème, je te détruis à ta racine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Vas-y, ordonne, ordonne. Les bras, Jesus. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oui, personne ne peut rester lié dans cette salle. Le Dieu qui opère des miracles te libère. Le Dieu qui délivre te libère. Te donne la solution à ton problème. Les bras, la puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit ce matin agit. Le Saint-Esprit agit. Souffle ton vent, Saint-Esprit. Souffle sur ce peuple. Guéris les malades. Change la vie. Oh. Oh, Jesus. Blessed be the name of Jesus.
Sorti. Hey! No.
Hey! Hey! Jesus! Labrakata para masakaya ba 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 ba. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Oh! Fais qu'il pleuve. Oh Seigneur.
Ouvre les yeux.
Pose la main droite sur ton front. Mets la main droite sur ton front. Prophétise sur ta propre vie. Tu vas demander au Seigneur. Tu diras au Seigneur, je prophétise sur ma vie. J'achèverai ma course. Tout problème destiné à m'arrêter dans mon parcours, je déclare que ces problèmes-là ont échoué. Tu tueras ton Goliath. Je dis, tu vas mettre à mort ton Goliath. Le Goliath qui est dans ta vie. Le Goliath qui est dans ta santé. Le Goliath qui t'empêche d'être épanoui. Je dis, ce matin, ce